Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Dans le vote blanc, qui est donc pour l'instant compté dans les résultats, mais pas pris en compte.
D'après ce sondage, le vote est un droit, mais pour de nombreux Français, cela devrait aussi être un devoir.
Les votes blancs et nuls ne sont pas pris en compte dans le décompte des suffrages exprimés.
Je vote pas. Je vote pas.
Bonsoir. Depuis dimanche soir sur RFI, nous avons analysé, décortiqué la victoire d'Emmanuel Macron, évidemment, la défaite de Marine Le Pen. Mais attention, ce serait une erreur d'oublier les votes blancs et nuls. 4 millions ce dimanche, un record pour un scrutin déjà marqué par une forte abstention. 4 millions de personnes ont donc choisi d'aller voter, ni pour Emmanuel Macron, ni pour Marine Le Pen. Certains ont voulu passer des messages gribouillants, déchirant les bulletins mis à leur disposition, ce sont les votes nuls. D'autres ont exprimé une forme de neutralité, rien dans l'enveloppe ou bien un bulletin vierge, les fameux votes blancs. Des votes désormais comptabilisés, cela fait 3 ans, mais non intégrés au résultat, ce qui signifie qu'on concrètement qu'il ne pèse pas plus que l'abstention, alors que la reconnaissance du vote blanc fait son petit bonhomme de chemin à l'étranger. En Suède, il est reconnu pour les référendums. En Colombie, il peut invalider une élection à certaines conditions. En Inde, les électeurs disposent d'un bouton, aucun des deux candidats, qui permet de servir d'indicateur du mécontentement. Alors faut-il reconnaître le vote blanc en France ? C'est notre débat de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Alexandre Malafaye, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de Sinopia, cofondateur de l'Observatoire citoyen du renouveau démocratique et vous représentez ici ceux qui sont favorables à la reconnaissance du vote blanc. Vous allez nous expliquer pourquoi. En face de vous, Joël Roman, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, collaborateur de la revue Esprit. Vous y avez d'ailleurs signé un article il y a quelques années sur le vote blanc et vous êtes beaucoup plus réticent. Alors, avant de vous demander quels sont exactement vos arguments, je voulais d'abord votre regard sur ce qui s'est passé dimanche avec cette explosion du vote blanc, près de 3 millions de votes selon l'Institut Kantar Sofras. Alors Alexandre Malafaye, qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce que pour vous c'est juste un effet Mélenchon qui avait juste dit aucun vote Marine Le Pen ou bien c'est quelque chose de beaucoup plus profond qui travaille la société française ?
Ouais, c'est beaucoup plus profond. Il y a un phénomène de désamour entre les Français et leurs dirigeants politiques et ça c'est ancien. Ça se construit, ça se renforce année après année faute de résultats satisfaisants faisant démontré par les politiques dans le cadre de leur action. Donc ce lien de confiance est très abîmé, très cassé. Et quand on interroge les Français sur leur manière de voter, évidemment, on voit bien qu'ils aimeraient pouvoir voter autrement et rejeter l'offre politique. Alors après, le vote blanc est un outil qui pourrait être évidemment à ce service-là. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est que on avait commandé un sondage il y a 2 mois de ça, 1 mois et demi de ça, je crois, à peine, même pas. C'était début avril avec Sinopia et l'IFOP, où on demandait ce que les Français voulaient faire vis-à-vis du vote blanc. Et là, on avait 86% de Français qui voulaient que le vote blanc soit reconnu en tant qu'une arme démocratique. C'est-à-dire vraiment dire voilà, j'ai moyen de voter blanc, mais mon vote blanc est pris en compte et à un moment donné, il y a un seuil et ça invalide l'élection. Et dans ce même sondage, on a interrogé les Français pour dire ok, maintenant le vote blanc est pris en compte comme ça, qu'est-ce que vous faites ? Et là, on avait 40% de Français qui disent dans ces cas-là, en l'état de l'élection, aujourd'hui, je vote blanc. C'est considérable. Donc ce qu'il faut considérer aujourd'hui, c'est le message envoyé par les Français au travers de ces 4 millions de personnes qui se sont déplacées mais qui ont voté blanc ou nul. Ça représente quand même 12% des électeurs exprimés. C'est important.
Plus l'abstention. Hein.
Plus l'abstention, bien sûr, mais ça veut dire 35% au total. Donc ça veut dire que M. Macron, qui est bien élu, parce qu'il est bien élu avec 20 millions de voix, mais 20 millions de voix face au Front National. Donc c'est un score qu'il faut relativiser. Et donc ça pose, une fois de plus, la question de la légitimité foncière du président de la République. Sur quelle base de citoyens vraiment mobilisés va-t-il pouvoir s'appuyer pour transformer le système, c'est une des questions. Et donc le renouveau démocratique dont il a parlé dans son programme, qui est son 5e chantier,
ça
est
devrait un point passer très important pour lui, bien sûr. Évidemment, par des réformes sur le vote blanc. Rappelons juste, avant de vous donner la parole, Joël Roman, que la reconnaissance du vote blanc, ou en tout cas des dispositions en la matière, faisait partie du programme de plusieurs, alors des petits candidats et de Jean-Luc Mélenchon. Joël Roman, quelle analyse vous faites de ce qui s'est passé dimanche ? Est-ce qu'on a assisté à l'éclosion d'une forme de parti blanc ? Est-ce que c'est comme ça que vous lisez les choses ?
Non, pas du tout. Je ne lis pas comme l'éclosion d'un parti blanc, parce que je crois que, d'abord, les raisons pour lesquelles un certain nombre de gens ont voté blanc ou ont voté nul peuvent être extrêmement diverses et ne sont pas forcément toutes univoques. En gros, ce qu'on peut quand même assez vite...
Comme les raisons pour lesquelles ils ont voté pour l'un ou l'autre candidat, d'ailleurs.
D'ailleurs, oui, qui ne sont pas non plus univoques. Tout à fait d'accord. Donc, ce qu'on peut pressentir et ce qu'on peut proposer, c'est que, probablement, une bonne partie de ces votes blancs sont des votes qui se reconnaissaient, disons, dans l'insensibilité de Jean-Luc Mélenchon, une autre partie sont des votes qui se reconnaissaient dans la sensibilité de François Fillon. C'est-à-dire des deux parmi les quatre candidats du,
qui ont
du premier
été
tour
éliminés.
Qui avaient été les plus importants, les deux qui ont été éliminés et qui précisément, pour un certain nombre, avaient une certaine forme d'amertume d'avoir été éliminés. Hein. Que de fois j'ai entendu des gens dire mais c'est pas juste, là, ça aurait dû être hein, Mélenchon aurait dû être au second tour ou Fillon aurait dû être au second tour.
Hein. Donc pas
cette conviction-là
une uniformité,
conduit
mais...
évidemment un certain nombre de gens à se dire pourquoi on nous embête avec ces deux zozos, je ne veux pas de ces gens-là et donc je vais voter blanc. C'est quelque chose qui est, d'une certaine manière, une prise de position.
Hein, et sur ce que ça dit un petit peu de l'essoufflement de la Ve République, dont on entend beaucoup parler, de la crise de confiance dans les responsables politiques, c'est pas votre analyse non plus ?
Un peu. Bien sûr que ça traduit une forme de crise de confiance. Mais enfin, quand même, je remarque que globalement, dans cette élection-là, on a ce phénomène de vote blanc pour le second tour. Mais le premier tour de la présidentielle a été quand même s'est accompagné d'un taux de participation relativement élevé. Alors c'est pas le plus élevé des présidentielles, mais c'est pas le plus bas non plus. Hein. Donc on a quand même quelque chose là qui vient relativiser cette idée
c'est
de
discrédit. C'est un peu conjoncturel, vous voulez
dire. Je pense qu'il y a des aspects qui sont conjoncturels et qui sont directement liés à cette situation du second tour, mais donc qu'il faut pas surinterpréter quoi.
Si je puis me permettre, ce qui n'est pas du tout conjoncturel à mon sens, c'est le mécontentement des Français à l'égard de leurs dirigeants politiques et que soit le premier tour ou le deuxième tour, témoigne d'un extrême profond problème que, pour l'instant, qu'on n'a pas traité. Et je suis, sans être grand clair, de dire que si on traverse encore 5 années avec peu de résultats politiques, peu de résultats concrets pour les Français au quotidien, c'est-à-dire en termes de chômage, en termes de sécurité, mais aussi en termes de comportement politique, parce qu'il y a eu quand même une dégradation du comportement politique et de l'exemplarité du leader, qui aujourd'hui qui pèse très lourd dans la balance. Et donc les indicateurs de ça, c'est quand même la montée en pression de manière très significative au premier tour, des parti contestataire, et donc de se retrouver l'élimination quand même des candidats du système, et un deuxième tour où finalement aucun des candidats dits du système n'est là, aucun des candidats des primaires n'est là, et avec M. Mélenchon et Mme Le Pen qui ont failli se retrouver dans un duel quand même. Et là, dans les deux cas, on est sur des projets de rupture profonds par rapport à la réalité. Donc je pense qu'il faut vraiment entendre le message de fond, et nous c'est ce qu'on dit aujourd'hui à M. Macron, on dit on est très content qu'il soit élu, parce que de fait, il porte un certain nombre de projets, et quand je dis très content, en tout cas sur le projet Renouveau démocratique.
Sur la moralisation voilà, de la vie politique, ça devrait être parmi ses premières mesures.
Ça nous va très bien, mais il faut le faire.
Là-dessus, je serais tout à fait d'accord hein, sur l'idée qu'il y a effectivement une forme d'insatisfaction à l'égard de la représentation politique, que celle-ci est en grande partie inadéquate. Hein, l'effondrement des deux partis de gouvernement le montre, évidemment. Et je pense qu'il faut effectivement travailler à une meilleure adéquation entre la représentation politique et les mandants, le peuple, enfin, d'une façon ou d'une autre, de trouver des formes de représentation politique qui soient plus en phase avec ce que pensent la plupart des gens. Cela dit, je pense aussi que ces choses-là témoignent assez souvent quand même d'une forme de mécontentement, d'une forme de... Enfin, un peu, je dirais, d'attitudes qui sont des attitudes de ras-le-bol ou d'énervement. Et je ne suis pas sûr qu'il faille qu'on puisse représenter ça. Enfin, je veux dire, il y a aussi un élément qui est d'une autre nature.
Oui, qu'est-ce qu'on ferait d'un éventuel parti blanc ? Alors, on va y venir, mais d'abord, Alexandre Malafaï, justement, quel est votre projet ? Qu'est-ce que vous demandez ? Une reconnaissance, c'est-à-dire une comptabilisation électorale, donc ça voudrait dire si, par exemple, dimanche, le vote blanc avait été comptabilisé, qu'on puisse dire finalement, Emmanuel Macron n'a pas plus de 50% des voix, donc il n'est pas élu. C'est ça ce que vous demandez ?
Je vais juste faire prendre un tout petit peu de recul pour dire que oui, sur le papier, on est plutôt favorable à la reconnaissance du vote blanc sous certaines conditions. Mais tous ces raisonnements-là, nous, on voudrait pouvoir les placer de manière un peu plus globale. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de cet observatoire du renouveau démocratique. L'idée qu'on sous-tend derrière, c'est de dire on a un vrai problème de fonctionnement de nos institutions, on a beaucoup de dévoiements, on a beaucoup de problèmes à traiter, et on voudrait les traiter à froid et non pas à chaud dans le cadre d'une campagne électorale et se figer finalement entre les propositions d'un président qui a peut-être pas une vision absolue de toute la problématique. Et donc avant de savoir.
Et vous n'appelez pas aussi à voter blanc.
Non, nous on n'appelle pas à voter blanc, ça c'est très clair. Moi je prends en compte le vote blanc, je le comprends. J'ai fait une tribune la semaine dernière pour dire je comprends les électeurs qui votent blanc, pour autant je les respecte et je comprends leur malaise et le fait qu'ils ne veuillent pas se positionner, mais pour autant j'appelle pas à voter blanc. Par contre j'appelle en faveur ce qu'on appelle, nous on a dit, il faudrait organiser un Grenelle de la démocratie pour refaire la démocratie, se poser toutes les questions de fond sur comment fonctionne la démocratie, quelles organisations du pouvoir, comment on prend en compte le citoyen, comment on prend en compte les collectivités locales.
Et alors à l'intérieur de ce Grenelle de la démocratie, qu'est-ce que vous voulez sur le vote blanc?
Sur le vote blanc, si on décide que finalement c'est une bonne idée, à ce moment-là, le vote blanc, alors il faudra réfléchir à quelles élections on l'applique, peut-être la présidentielle, peut-être le premier tour de la présidentielle, mais il faut un seuil. C'est-à-dire que, par exemple, si on le prend en considération, on dit, OK, au-delà, par exemple, de 30%, si vraiment on a 30% des Français, ou 50%, après, c'est une question de choix démocratique, de choix des Français, à ce moment-là, on peut considérer que la base foncière du président n'est pas suffisamment importante pour être portée au deuxième tour, et donc on annule l'élection, on renvoie dos à dos les candidats et les partis, en leur disant, écoutez, vous n'avez pas
alors,
été bon.
Je crois que c'est en Colombie où ça peut annuler l'élection, voilà. Et si au second tour, il y a encore un gros, énormément de votes blancs, là, c'est la majorité relative. Ça pourrait être, par exemple, le modèle que
oui,
vous prenez.
Oui, il faut trouver, après, il y a différentes combinaisons. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si on a un score de vote blanc trop important, ça disqualifie de fait l'ensemble des candidats, parce qu'il faut quand même que la majorité, ou en tout cas la base électorale, soit suffisante pour pouvoir être légitime en matière de responsabilité à exercer, quoi.
Alors, Joël Roman, Alexandre Malafaï vient de nous dire si c'est une bonne idée pour vous, c'est justement une fausse bonne idée, c'est ce que vous aviez dit dans cette tribune,
c'est
dans
ce que
cet
je
article.
Pense. Hein. Je pense que c'est une fausse bonne idée. Je pense que c'est une idée qui procède d'une confusion fondamentale. Une confusion fondamentale entre deux choses. Il y a une dimension du vote qui est l'expression d'une préférence, l'expression de chaque individuel, de chacun, de sa préférence. Et il est tout à fait légitime dans ce cadre-là que quelqu'un puisse dire à un moment donné, surtout quand il reste plus que deux candidats, je n'en préfère aucun. Donc, si le vote blanc est l'expression d'une préférence, ben, ça se comprend et on peut très bien comprendre que quelqu'un dise, ben, entre ces deux candidats, je choisis pas. Bon. Le problème, c'est que le vote, c'est pas ça.
C'est pas que ça.
C'est pas ça. Ça, c'est le sondage. On peut exprimer des préférences. Le vote, c'est une procédure de décision collective. Et une procédure de décision qui a une conséquence institutionnelle, évidemment. Donc cette procédure de décision collective, elle exige que l'un des deux soit désigné et qu'on prenne parti. On peut choisir de dire « moi je veux pas me mouiller les mains, je veux pas me mêler de cette affaire, je n'ai pas de préférence personnelle ». Bien sûr, c'est tout à fait légitime comme expression d'une préférence, comme expression d'une conviction. Mais l'expression de cette conviction ne sert à rien, n'a aucun sens. Parce que ce qui a du sens, c'est ce qui va se jouer en termes de choix effectif de quelqu'un contre l'autre. Oui, et donc, il y a là quelque chose qui est de l'ordre de la mécanique de la décision collective et non pas de l'expression des préférences. Je crois que, et c'est très dangereux de confondre ces deux choses et de laisser entendre que les élections pourraient servir à exprimer simplement des préférences. Je crois que les élections ne servent pas à exprimer des préférences. On a toute une gamme d'études, de sondages, de manières d'appréhender l'opinion qui nous permet précisément de prendre conscience et de connaître un peu ce que les préférences des uns et des autres, comment les gens les ressentent, comment les gens les expriment. Mais il y a un moment où il faut être dans la procédure de la décision collective.
Oui. Alors Alexandre Malafaï, c'est intéressant cette distinction. Absolument. Comment est-ce que vous la percevez? Vous êtes d'accord avec cette notion du vote?
Je pense que aujourd'hui le vote peut pas être considéré comme un acte collectif. C'est d'abord un acte individuel. Je suis un citoyen, j'ai ma part dans la société, je veux être entendu et à ce titre-là, je veux voter et je veux pouvoir voter comme je l'entends. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'une partie des gens ne votent pas ou finalement votent aussi dans les extrêmes.
Mais ça me paraît très dangereux. Ça me paraît très dangereux parce que c'est inciter les individus à aller davantage dans ce sens-là. Hein. Si, par exemple, on dit...
C'est un petit peu ce qu'on a reproché à Jean-Luc Mélenchon.
On prend une disposition comme celle que vous proposez de dire, s'il y a 30% des électeurs qui votent blanc, on annule les élections.
Oui, et on reporte de 30.
Évidemment, ça va créer, en quelque sorte, ça va précipiter un certain nombre d'individus qui voudront découdre avec les institutions.
Vous craignez un peu le chaos, vous voulez dire?
Mais bien sûr.
Non, il n'y a aucun chaos. On peut très bien avoir un gouvernement de transition qui gère le temps de recomposition de la vie politique et le fait que les partis et la société s'organisent pour avoir des nouveaux candidats. Moi, je crois bien au contraire, en fait, que d'abord, parce que j'ai lu votre tribune, et c'est vrai que quand je vois comment vous la terminez, vous dites, finalement, je me résous en fin de compte à ce qui m'apparaît comme la moins mauvaise des solutions. Bah, quel projet, ça fait rêver, quoi. C'est finalement la médiocrité, c'est on doit s'en contenter.
Non, pardonnez-moi,
je finis. Mais c'est ce à quoi on arrive, en fait, finalement, avec ce système démocratique. Qui n'est pas performant. Parce que, in fine, comme on voit bien qu'on ne peut pas remettre en cause les sortants, d'ailleurs on connaît maintenant le fameux slogan « sortez les sortants », où on peut très difficilement les remettre en cause, et que la légitimité du président de la République, finalement, qui est essentielle, s'appuie sur une base extrêmement étroite, puisqu'on est élu avec des minorités, en fait, finalement, la capacité réelle à transformer, à susciter la confiance et à entraîner, elle est relative. Je crois qu'au contraire, le fait de prendre en compte le vote blanc, bien sûr, sous certaines règles, et avec la possibilité de redonner un temps de réflexion aux Français, permet et aux candidats et aux partis, permettra de véritablement avoir des projets qui sont plus cohérents, et je crois beaucoup plus, en plus, à la dimension dimension vertueuse de cette démarche vis-à-vis des partis. C'est-à-dire que, sachant qu'il va y avoir l'échéance du vote blanc, ils vont se comporter très différemment pour avoir la possibilité de gagner au premier tour et convaincre, sachant qu'ils seront beaucoup plus facilement sanctionnés par la suite, parce que là, le vote blanc sera une possibilité vraiment de dégager les gens qui ne sont plus performants.
Alors, Joël Roman, sur cette question de la légitimité des élus remise en cause aujourd'hui par l'abstention, par la multiplication de ces votes, qu'est-ce que vous vous proposez si vous ne voulez pas la reconnaissance du vote blanc?
Je ne veux pas la reconnaissance du vote blanc, je veux, alors là, je serais d'accord avec vous, effectivement, que ces élus soient plus légitimes et qu'ils travaillent davantage à être... Donc, moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à faire pour améliorer la procédure démocratique et pour améliorer les modes de décision démocratique et les modes de délibération démocratique. Hein. Je pense qu'au contraire, il y a une quantité de mesures considérables à faire.
Hein. Donc l'idée du Grenelle qu'on propose pour réfléchir à froid...
Donc, probablement que je serais d'accord avec les trois quarts des mesures que vous proposez. Mais pas celle-là. Pas celle-là, parce que si vous me prenez comme mesure la reconnaissance du vote blanc, vous affaiblissez complètement ce que vous voulez sauver. Vous dites, le président a finalement une légitimité très faible. Mais c'est si vous dites il est possible de reconnaître le vote blanc, vous voulez affaiblir encore plus sa légitimité.
Au contraire, on veut le stimuler. On veut stimuler.
Mais vous ne stimulez rien du
tout. Si, on va stimuler les partis, on va stimuler les partis et les candidats qui vont savoir qu'il y a cet écueil du vote blanc au premier tour avec par exemple un blocage à 30%, et donc il faudra qu'il soit beaucoup plus convaincant et beaucoup plus probant, et sans doute aussi beaucoup plus appuyé sur des résultats, parce que sinon la sanction tombera, c'est-à-dire que globalement la classe politique dans son ensemble sera sanctionnée.
Oui, oui.
C'est ce qu'on reproche. D'ailleurs, c'est pour ça que, pardonnez-moi, c'est pour ça qu'Emmanuel Macron finalement a réussi à fédérer au-delà des clivages, parce qu'il a bien compris que le jeu se déplaçait.
Alors, Alexandre Malafaille, juste une question, parce qu'il existe un parti blanc. Est-ce que vous y êtes favorable? Et c'est quoi un parti blanc? Enfin, comment est-ce qu'on choisit un leader? Quel est le programme d'un parti blanc? Quelle serait la place, le rôle du parti blanc?
Alors, je crois que le parti du vote blanc, en fait, qui est présidé par Stéphane Guyot, en fait, lui a simplement pour objectif de porter l'idée du vote blanc le plus haut possible. Donc, en fait, s'ils sont élus avec des électeurs qui ont voté blanc et qui les portent à l'Assemblée, je crois que leur but c'est pas de défendre un projet ou un parti, c'est vraiment de porter l'idée du vote blanc jusqu'à son terme.
Oui, mais bon, voilà. S'ils sont élus, ça fait quand même du coup pas de programme.
Oui, mais en fait ils sont élus pour faire passer le vote blanc et après ils s'effacent. Voilà, le projet du parti du vote blanc, c'est pas de
Mélenchon
gouverner.
Qui ferait une constituante.
C'est
finalement.
Ça. C'est voilà, nous on porte une idée, on la met en œuvre. Une fois qu'elle est en œuvre, on s'efface et on repart devant les électeurs. Voilà, l'idée, ils ne veulent absolument pas gouverner. Eux, ils veulent porter cette idée. C'est cette idée, rien que pour cette idée.
Joël Roman a l'air effondré.
Oui, un peu, mais...
Je défends pas le parti du vote blanc, les connais bien, je trouve que leur approche est intéressante, parce que c'est vraiment de dire, on y croit, et donc on veut aller au bout de cette démarche, et si on est élu, on défend l'idée, mais par contre, on ne fait rien d'autre.
Moi, je reste profondément attaché à l'idée que le vote est une procédure de décision, et de décision qui est une décision collective, de fait, je sais bien que...
Et donc, qui induit une forme de responsabilité du citoyen, finalement, à choisir.
Et bien sûr.
Mais quand vous rejetez tout, quand plus rien ne vous convient, vous faites quoi, monsieur Roman? C'est ça que je...
Eh ben, quand plus rien ne me convient, je continue, je change les institutions.
Je crée un parti.
Mais je fais comment?
C'est un peu l'idée dans la Constitution.
Je bouge,
en fait. Ça fait 30 ans qu'on voit bien que tout ça tourne en rond et il y a un entre-soi incroyable.
Qu'a fait Emmanuel Macron?
Ah ben voilà, il y a enfin une rupture. Mais on a enfin une rupture.
Il a créé quelque chose, il a changé quelque chose, il a fait irruption dans ce et il a montré qu'il y avait possibilité de changer les choses. Donc d'une certaine manière, la percée d'Emmanuel Macron dit le contraire de cette impuissance.
Hein. Oui, enfin sauf qu'il est élu dans un contexte qui est très particulier. Vous voyez vous-même cette campagne électorale très spéciale dont on a terminé. Bon, il a gagné, il a fait un exploit extraordinaire, mais je crois qu'il faut prendre la mesure de l'humilité dans laquelle il doit se trouver aujourd'hui en disant tout est affaire. Hein.
C'est d'ailleurs ce qu'il a fait lors de son discours.
Je dis pas qu'il faudrait faire du triomphalisme. Je dis simplement que voilà, c'est quand même quelqu'un qui a réussi quelque chose.
Alors,
et qui a réussi à transformer les choses. Et je pense que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui.
Alors, je voudrais juste, il nous reste une minute, 30 secondes chacun, que vous me disiez quelles sont, vous en avez parlé d'ailleurs, Joël Roman, beaucoup de mesures sont possibles pour améliorer le système. Alors vous, par exemple, lesquelles vous sembleraient intéressantes? Et ensuite, Alexandre Malafaille, en dehors de la question du vote blanc.
Alors, en dehors de la question du vote blanc, moi, je pense qu'il faudrait avoir un système... Il y a deux choses qui me paraissent importantes. La première, c'est de penser qu'il y a un pluralisme de l'expertise. Chaque fois qu'il y a un débat, qu'il puisse y avoir des expertises plurielles à disposition des élus et à disposition des citoyens. Et la deuxième chose, c'est une procédure de discussion qui teste un certain nombre d'hypothèses. C'est-à-dire de présenter, au fond, un certain nombre de réformes sous la forme d'hypothèses.
L'évaluation, avec une démarche d'évaluation en amont, ça c'est
Vous
une
êtes
bonne
d'accord
idée.
Là-dessus?
Je suis d'accord sur l'évaluation en amont des
une
politiques
ou deux mesures.
Oui.
Il nous reste reste 30 secondes.
Ensuite, je crois qu'il faut vraiment relever le niveau de la classe politique, en tout cas le niveau des ministres. Ça, je pense qu'il faut aller vers un système à l'américaine où quand on est ministre, on est auditionné et on n'est pas nommé en 24 heures, on en une nuit. Et sans doute réfléchir à nouveau à la question du septennat et peut-être du septennat unique. Il y a tellement d'enjeux autour du président qu'il vaut mieux un bon septennat bien fait plutôt que deux septennats cacophoniques.
Et bah, beaucoup d'idées de débat pour ce quinquennat qui s'ouvre. Merci beaucoup, messieurs. Alexandre Malafaï, président de Sinopia, Joël Roman, philosophe. Merci également à Florence Ponce, à Valentin Vaner, au service de la documentation. On se retrouve demain pour un nouveau débat.